Quand le Seigneur apparaît aux dix et à Thomas, il souffle sur eux en leur disant, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous leur remettrez les péchés, ils seront remis, ceux à qui vous retiendrez, ils seront retenus. Par ce souffle du Christ, qui est créateur, n'est-ce pas ? Il transmet l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il accomplit, c'est-à-dire, comment expliquer sans dire d'hérésie en même temps. Comme je vous ai fait remarquer le jeudi saint, la communion, l'Eucharistie, c'est la constitution de l'Église. Le Christ, au moment de l'Eucharistie, a créé une assemblée. Cette assemblée, c'est l'Église. D'ailleurs, le mot « ecclésia » veut dire « assemblée ». Et j'avais fait remarquer que « synagogue » et « église », c'est le même mot, la même signification. L'un comme l'autre, ça veut dire l'assemblée. Un mot exprime maintenant l'assemblée de l'Ancien Testament, la synagogue, et l'autre l'assemblée du Nouveau Testament, l'Église, et l'Église qui est faite par les chrétiens. Donc, en soufflant sur les apôtres, le Christ passe le relais, en quelque sorte, au Saint-Esprit, après avoir œuvré sur terre, comme nous le savons et comme nous le méditons. Il envoie l'Esprit Saint d'abord sur les apôtres, avant de l'envoyer sur tous les membres de l'Église, ce qu'il fera le jour de la Pentecôte. Mais déjà, c'est une, je ne sais pas si on a le droit de le dire comme ça, mais c'est une micro-Pentecôte, une Pentecôte pour quelques personnes qui montrent l'implantation de la nouvelle vie, de la nouvelle assemblée de l'Église, fondée sur la foi en Christ, mais transmise d'abord par les apôtres, puis après par tous ceux qui en ont le ministère, et finalement par toute l'Église. Et dans ce cadre-là, vous avez pu remarquer que dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ apparaît ressuscité pour la deuxième fois. Il était apparu dimanche dernier dans l'Évangile pour la première fois, et 8 jours après, le dimanche d'après, il était déjà apparu aux apôtres, et 8 jours après, il apparaît de nouveau Et cette seconde apparition a fondé, en même temps qu'elle a fondé l'Église, comme je viens de vous l'expliquer, elle a fondé les rythmes liturgiques. C'est-à-dire que unissant les membres de l'Église pour la seconde fois 8 jours après, cette huitaine après, est devenue le moment liturgique du rassemblement des premiers chrétiens. Et c'est comme ça que le dimanche, le jour du Seigneur, est devenu la répercussion, la rénovation, la reparticipation à la résurrection, donc à tout le mystère du Christ. Voilà pourquoi, 2000 ans après, encore maintenant, et encore pour 2000, 3000, 4000, 5000, 15000, je ne sais pas combien d'années encore, ou pendant 8 jours simplement. Voilà pourquoi non seulement les chrétiens se rassemblent, mais se rassembleront toujours ce jour-là. Et l'essence même de l'Église implique ce rassemblement. Être chrétien, c'est être un avec le Christ. C'est donc attendre et recevoir toujours ce problème de Dieu déjà acquis et Dieu encore à venir, la résurrection est propagée, prolongée, manifestée, voilà, manifestée par notre assemblée, par notre église, par notre assemblée eucharistique, chaque dimanche, cette unité du corps du Christ. Un chrétien, en rigueur de terme, un chrétien n'est pas celui qui prie, un chrétien n'est pas celui qui a une assaise, un chrétien n'est pas celui qui lit les Écritures, un chrétien n'est pas celui qui croit en ce que disent les Écritures et ce que transmettent les apôtres, bien sûr que tout ça, ça en fait partie, mais un chrétien est celui qui se démarque du monde par cette assemblée dominicale où l'union des uns et des autres en Christ par l'Eucharistie, par la communion, manifeste ce noyau de l'humanité transfiguré et qui est véritablement le sel de la terre et qui est appelé à se répandre par toute la terre, conformément à ce que le Christ encore nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La manifestation de cela se réalise à travers l'Eucharistie dominicale. Je rappelle que dominical, c'est le mot latin dominicus. En grec, ce serait seigneurial, le jour seigneurial Kyriaki. C'est le jour du Seigneur. Et ce jour du Seigneur a été dévoyé dans l'histoire par notre faiblesse et notre péché. C'est devenu un jour de détente. Et le dimanche n'est pas un jour de détente. Le dimanche, je vais me faire jeter, mais le dimanche n'est pas un jour pour se détendre, c'est un jour à consacrer au Seigneur. C'est un jour où on doit prier davantage, où on doit lire, approfondir notre foi, non seulement manifester par l'Eucharistie, mais développer à l'intérieur de nous-mêmes, sentir davantage la présence et l'activité du Seigneur en nous, et non pas un jour de temps. Ou alors, il faut considérer que la réunion avec Dieu, l'ézéchia que l'on trouve en Dieu, est véritablement une détente. C'est une détente, mais pas un loisir. Ce qui me rappelle, et j'essaie de faire le lien, oui, ce qui me rappelle celui que nous fêtons aujourd'hui, le prophète Isaïe. Il est curieux de voir, à travers le livre d'Isaïe, que les pères considéraient comme un deuxième évangile. C'est ou un premier dans le temps, évidemment. Isaïe était dans une situation que l'on peut dire apocalyptique. Et j'ai été frappé de voir la ressemblance entre l'histoire humaine du peuple juif du temps d'Isaïe et l'histoire humaine qui se déroule aujourd'hui politiquement et socialement. La même débâcle, la même pression des forces extérieures. En l'occurrence, du temps d'Isaïe, la pression du peuple du roi d'Assyrie. Et après, Sennachérib, qui faisait pression sur Israël. et les rois de Juda essayaient de pactiser avec celui qui les menaçait, ou quelquefois même s'allier purement, simplement à lui, dans l'espoir d'avoir des bénéfices, ce qui à chaque fois a été pour son malheur. C'était quelquefois aussi avec l'Égypte, même scénario. Et le représentant de la synagogue, le représentant officieux de la synagogue, le prophète Isaïe, se dressait contre cela et prévenait les rois de Jérusalem et de Samarie d'abord, de l'imminence du danger que représentait de telles alliances. Et effectivement, les malheurs sont bien arrivés, non seulement parce que le peuple d'Israël était divisé en deux. Il y avait le peuple d'Israël, le peuple du nord, la Samarie, qui était un royaume qui était devenu indépendant. Il y avait un schisme à l'intérieur même de la synagogue. Le peuple est condamné, le royaume de Juda, de Judée, si vous voulez, Jérusalem. Jérusalem s'opposait aussi, mais avait gardé dans la politique de l'Ancien Testament, avait gardé la voie normale qui avait été tracée pour Dieu. Simplement, eux qui étaient les justes, si vous voulez, eux qui avaient gardé la voie, étaient aussi dégénérés. Ils étaient devenus ils allaient au temple, certes, et ils pratiquaient, mais leur pratique était devenue formaliste, pharisaïque. Ce qui fait que, avant sa passion, le Christ est entré dans ce temple et il a tout bouleversé. Ne faites pas de ma maison une maison de trafic, mais c'est une maison de prière. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments comme ça qui ressemblent étrangement à notre. Mais ce qu'annonçait aussi Isaïe, c'était que à cela, pour lutter contre cela, ce n'était pas par des moyens politiques ou humains. Ce n'était pas en s'inféodant à une nation dominatrice, ni en rampant devant elle, pour tout accepter, que le salut arriverait, mais que mais ce salut arriverait donné par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il l'a annoncé par cette phrase que tout le monde connaît par cœur, j'espère. Voici que la Vierge enfantera et donnera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. C'était l'annonce du vrai Messie, le Christ, qui, je rappelle que Messie et Christ, c'est le même mot, hein. Et le Christ qui devait venir, qui est le roi du ciel, qui est Dieu lui-même et qui se fait homme. Ce qui me fait dire que dans des situations comme celle au pluriel que nous vivons actuellement, comme à tout temps de l'histoire d'ailleurs, le salut n'est pas à chercher dans les puissants de ce monde, dans la politique ou dans l'amélioration de nos conditions de vie, mais uniquement, exclusivement, j'insiste là-dessus, exclusivement, sur notre conversion. C'est par notre repentir, par notre retour à Dieu, par notre adhésion à Dieu, notre attachement à Dieu, véritablement en nous clouant sur la croix avec lui. Et ce n'est pas une image. Je ne dis pas d'aller chercher des clous, des pointes de 160, hein, pour autant, mais ben. C'est en nous clouant sur la croix qu'on peut faire et que lui vient et apporte le salut. Aujourd'hui, en 2021, je ne sais pas quel salut historique il faut attendre. Mais Dieu peut bouleverser toutes les choses, tout l'ordre politique et économique écrasant et de plus en plus écrasant dans lequel nous sommes, c'est rien pour Dieu. Tout peut changer d'un coup. Je ne vois pas comment. Vraiment, personnellement, je ne vois pas comment. Mais tout peut arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de toute amélioration de notre condition humaine momentanée, que j'appellerais historique, si vous voulez, le salut, c'est notre engrangement dans le royaume des cieux. Et comme toujours, c'est le Christ qui nous le donne. À condition de prendre au sérieux notre foi, non pas, je sais que je radote, mais non pas comme une adhésion à un système théologique, à une pensée, fut-elle initiée de Dieu, non, mais avec un engagement dans cette voie-là, un engagement volontaire, profond, le plus total possible dans cette réalisation, dans cette manifestation de l'Église, pas simplement comme assemblée de croyants, mais comme une assemblée l'assemblée du corps du Christ, que chacun et chacun personnellement et tous ensemble en Église nous manifestons. Et là, cette assemblée-là apporte le salut dès aujourd'hui. Et le salut éternel. Il nous viendra chacun notre tour de fermer définitivement nos paupières. Mais ce moment-là sera le salut qu'on aura déjà vécu par notre assemblée dominicale et par notre communion. Ne prenons pas la communion et la liturgie qui prépare la communion, prenons pas comme un acte de piété, encore moins comme une obligation, évidemment, mais prenons pas ça comme un acte de piété auquel il faut parce que nous ferions encore comme les juifs auquel s'adressait Isaïe, nous ferions encore une religion pharisaïque d'accomplissement de loi. Mais entrons véritablement dans, parce que c'est urgent, de plus en plus urgent, entrons dans le mystère mystique, dans le mystère de notre adhésion corps et âme, ou âme et corps, de tout notre être, dans cette réception de la vie de l'Esprit Saint pour manifester au monde la vie du Christ. On n'a plus de temps à perdre. C'est urgent. C'est urgent de prendre au sérieux ces paroles et vraiment de faire un retournement, de quitter la vision et la pratique que l'on a d'un monde physique sur lequel un monde historique, matériel, humain tout simplement. Que les siècles nous ont, vers lequel les siècles et le siècle nous ont poussés, mais comme le disait Isaïe déjà en son temps, mais à plus forte raison maintenant, puisque nous sommes à la fin des temps, convertissons-nous, c'est le seul, retournons-nous vers le Christ d'une manière consciente et permanente, c'est le seul moyen d'obtenir le salut pour soi et d'obtenir le salut du monde. C'est un choix à faire, c'est une conversion à faire, c'est un... mais le monde dont on a à souffrir quelquefois, le monde inconsciemment attend de nous cela. Le monde persécute les chrétiens, c'est évident, mais ça fait 2000 ans que ça dure. Mais le monde a besoin, appelle les chrétiens à témoigner. Et le témoignage n'est pas un témoignage verbal, c'est un témoignage de notre vie. Il faut, ce n'est pas une option, c'est une obligation qui nous vient de notre baptême. Il faut que nous témoignions, que nous manifestions la vie de l'Esprit Saint en Christ qui nous unit au Père. C'est indispensable, c'est urgent, il en va de la survie de notre monde et de notre survie éternelle.